Bonjour Vincent Message.
Bonjour.
Nous parlons de Défaite des maîtres et possesseurs qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Le personnage principal, le narrateur, s'appelle Maloclès. Nous le suivons sur quelques jours seulement. Le temps presse. Il doit trouver des papiers pour Iris, jeune femme qui, à la suite d'un accident, doit être hospitalisée. Elle attend une greffe d'un membre qui ne pourra être réalisée que si elle dispose de papiers d'identité conformes. Le temps presse doublement pour Maloclès. Il travaille pour le gouvernement. Il tente de faire passer une loi à l'Assemblée ayant rapport aux droits humains. On comprend, au bout d'une cinquantaine de pages, que quelque chose cloche dans ce monde. Il est conforme au nôtre, à une différence près. Maloclès est un extraterrestre. Que s'est-il passé ?
Le monde que j'imagine dans Défaite des maîtres et possesseurs est un monde où nous ne sommes plus, nous les hommes, l'espèce dominante. Il y a de nouveaux venus qui sont arrivés deux générations avant que le récit ne commence et qui d'abord nous ont observés et puis petit à petit se sont rendus compte que, étant donné la manière assez désastreuse, ravageuse dont nous gérions les ressources de la planète, s'ils voulaient eux-mêmes pouvoir y survivre, ce qui était leur but, de trouver un abri, un havre, il allait falloir qu'ils nous dessaisissent de nos fonctions, qu'ils prennent à leur tour le pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, et donc quand le récit commence, les hommes sont devenus des dominés, ils sont assujettis, ils connaissent différents sorts, qui sont les sorts que nous réservions à d'autres espèces, aux animaux en particulier. Ils sont des hommes qui servent à des travaux de force, ils sont des hommes de compagnie, c'est le cas d'Iris, c'est une femme de compagnie pour ce Maloclès. Et il existe aussi des hommes d'élevage qu'on élève dans des fermes industrielles, qu'on abat et qu'on mange. Donc c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre à bien des égards, mais avec ses différences près qui ne sont pas des détails.
Au début, les 50 premières pages, on a l'impression que le sujet, la thématique de ce livre-là a trait aux sans-papiers. On a affaire à un homme qui doit trouver des papiers pour... On a l'impression que c'est ça... femme, en tout cas sa copine, sa petite amie, qu'ils ont une relation amoureuse ensemble et qu'il est déterminé à lui trouver des papiers par des moyens plutôt illégaux. Mmh. Ça lui pose des problèmes, il va aller dans des mondes un peu interlopes, on va dire, souterrains, pour essayer de dénicher des papiers. Au début, on a l'impression que c'est la thématique du livre. C'était l'angle d'attaque.
Je voulais... effectivement, peut-être mettre en place ce qui s'avère une fausse piste. D'abord parce que j'avais envie que ce roman prenne la forme d'une sorte de compte à rebours. Donc oui, le temps presse. On a besoin dans ce monde d'être parfaitement en règle pour avoir le droit d'avoir accès au système de santé. Et elle est sur ce lit d'hôpital. Et sans papier en règle, impossible d'espérer l'opérer et donc d'espérer... la faire survivre ou retrouver une vie normale à ses côtés. Et il y a une clandestinité de leur vie. Et effectivement, le mystère qui se révèle peu à peu tourne autour des raisons de cette clandestinité.
Arrive le moment où, en tant que lecteur, on comprend l'enjeu du livre, on comprend les bizarreries que nous pouvions... ressentir, il y avait un certain malaise, tout n'était pas très très clair dans cette fiction. Je vais lire cet extrait. Un jour, entre les hommes et nous qui sommes stellaires, il y a eu rencontre. Lorsqu'ils se sont rendus compte que nous vivions plus longtemps qu'eux, que nous résistions mieux à la fatigue et à la douleur, que notre force physique les faisait passer pour de petites choses aussi fragiles que l'était pour eux le cou des lapins ou le crâne des moineaux, alors que nous ne comprenions pas, que nous n'avions aucun moyen de les renseigner sur nos intentions, ils ont pris peur. Ils se sont dit que c'était eux ou nous, qu'il fallait nous détruire sous peine de se voir éradiquer. On comprend peu à peu qu'il y a eu une guerre.
Je passe assez vite là-dessus néanmoins, mais il y a eu une guerre. Malo revient dessus, c'est ce qu'ont vécu ses parents, la génération de ses parents en arrivant sur notre planète. Et c'est un motif assez classique de récit science-fictionnel. Une autre espèce arrive, d'autres régions de l'espace, elle entre en conflit avec la nôtre. La spécificité, c'est qu'on n'y assiste pas dans les détails, et surtout on y assiste plutôt du point de vue des non-humains, et tels qu'ils peuvent le raconter une génération après, avec un peu de distance. Ce qui fait que la question qu'ils sont en train de se poser, c'est est-ce que nous avons eu la main un peu lourde? Est-ce que nous avons employé des moyens trop violents? Est-ce qu'il y aurait eu moyen d'éviter ce conflit? Est-ce qu'il faut se repentir de ce que nous avons fait? Et à travers cette idée, faut-il se repentir? Faut-il s'autocritiquer pour avoir assujetti les humains? Se dessine aussi le rapport qu'ils peuvent avoir à la colonisation. Et au fond, ce sont des colons comme nous-mêmes avons été colons sur d'autres continents ou pour d'autres peuples.
Cette question de la repentance, elle est en filigrane. C'est peut-être pas la question la plus importante. Néanmoins, par ce narrateur, Maloclès, on la ressent, on fait l'analogie avec notre propre repentance également. Un jour, je recite à nouveau, entre les hommes et nous qui sommes stellaires, il y a eu rencontre. C'est à nouveau le même début. C'était sans doute inévitable, on ne peut pas rester toujours sur les rivages. Et après cette rencontre, il y a eu des massacres, bien sûr. De grands massacres, des années où les morts étaient trop nombreux pour qu'on les compte encore, ou qu'on en sache les noms. Il ne sert à rien de le nier, à rien non plus de s'y attarder. Ce n'est pas ce que nos historiens ont voulu retenir de nos débuts ici ou ce que nous avons décidé de transmettre à nos enfants. Aux esprits critiques qui affirment que nous aurions pu avoir la main plus légère, une majorité d'entre nous agacés, agressives, à vif sur le sujet, a coutume de demander à quoi cela peut leur servir cette repentance, cette manière de gratter les abcès du passé, alors que c'est le présent qui s'impose et qui nous sollicite. Il y a à la fois idée de repentance chez Maloclès et quelques-unes des personnes qui gravitent autour de lui, mais en même temps il y a toujours une urgence dans la situation. On sent que ce personnage est aussi dans une urgence et pas seulement, et que son espèce est dans une urgence, pas seulement liée pour lui à l'événement de trouver des papiers pour Iris ou faire passer une loi. Il y a une urgence dans cette espèce qui nous a dominés à essayer de faire avec cette planète.
Oui, parce que dans un premier temps, leur domination est assez tranquille et elle s'établit de manière relativement homogène. C'est-à-dire que tous, à peu près, sont d'accord pour dire que c'était la meilleure solution, que ne pas dessaisir les hommes, ça aurait été une forme de non-assistance à espèces en danger, puisque les hommes menaient cette planète à un état assez invivable, que leur mode de production, de développement, de vie était insoutenable. Néanmoins, le moment où le récit s'enclenche est un moment où Maloclès se rend compte que peut-être la phase qui succède et le type de pouvoir que cette nouvelle espèce à laquelle il appartient a pu développer n'échappe pas non plus au même travers. Et que à la critique des hommes doit venir s'ajouter une autocritique que cette espèce porterait sur elle-même. Et pas uniquement pour se tourner vers le passé, mais pour répondre aussi aux sollicitations du présent. Ils ont reproduit les erreurs qui étaient celles des hommes, il est peut-être temps de dire « nous nous trompons », de se remettre en cause. Et il fait partie des premiers dans le roman à apporter ce type de dissensus, ce type de note discordante dans une société qui a, pour le reste, un rapport très tranquille à sa domination sur le vivant.
Il y a des petites notes comme ça que tu mets éparses dans le texte. Par exemple, la disparition des oiseaux. C'est les humains qui ont noté que, mais oui, les oiseaux ont disparu. Effectivement, les oiseaux ont disparu, sans doute par un virus qu'auraient apporté ces extraterrestres avec eux.
Oui, alors les oiseaux ont sans doute disparu en deux étapes. C'est vrai que c'est une différence notable avec notre monde. Il n'y en a pas tant que ça dans le roman. J'ai pas voulu créer un monde méconnaissable, mais un monde dans lequel certaines données, tout de même assez visibles ou assez marquantes, auraient changé, dont celle-là. Il n'y a plus d'oiseaux dans le ciel. La première étape, c'est certainement les hommes qui font le gros du travail. C'est-à-dire ce qu'on connaît du côté de nos sociétés agricoles, la disparition des haies, des bosquets, de couloirs verts qui leur permettraient de survivre, de faire le lien entre des écosystèmes ou de suivre des couloirs de migration. Côté tropique, la déforestation majeure et des espèces très fragiles qui ne peuvent plus vivre quand leur habitat est ravagé par l'industrialisation, par la progression de terres qu'on veut agricole, etc. À cet état de faiblesse dans lequel se trouvent les oiseaux, quand arrive l'espèce de Malo, s'ajoute ensuite une forme de virus, dont on soupçonne qu'il se transmet des nouveaux venus aux oiseaux, des oiseaux peut-être aux volailles, de la volaille aux hommes, et donc ça touche plusieurs personnes. Il y a une pandémie, de même qu'on parle régulièrement dans notre monde de risques de pandémie, une grippe aviaire, etc., qui sont liés aussi à conditions d'élevage, hein, je pense qu'on y reviendra, mais aux conditions d'entassement des bêtes. Et là, brusquement, les oiseaux, qui font partie des choses les plus belles dans le monde d'hier, dans le monde jusqu'à l'arrivée de cette espèce, ne sont plus là pour tracer dans le ciel leur signature. Ils ne sont plus là pour animer les campagnes, et le monde est devenu silencieux.
Il y a des différences entre cette espèce extraterrestre et la nôtre, notamment celle de nommer, d'employer des termes précis pour nommer les choses et nommer les êtres. C'est ce qui va surprendre cette nouvelle espèce. C'est pour ça que le terme d'extraterrestre n'apparaît qu'une fois à une page, à un moment donné. Et tu dis, c'est un mot si auto-centré, extraterrestre. C'est vrai que c'est un mot extraordinairement centré. Et puis, ce qui les a étonnés, enfin, ce qui a étonné ces extraterrestres, c'est voilà, cette manière qu'on a de faire identité et de s'emparer des identités, notamment parce que nous nommons les êtres. Je vais te citer. Comme leur science s'avérait impuissante à appréhender notre métabolisme, les fluidités de nos raisonnements ou la vie intérieure qui nous anime, il leur est arrivé aussi de nous nommer démons. Ils ont réactivé ce vieux mot de leur frayeur théologique. Ils l'ont tiré de leur grenier de poussière et de leur nuit. Dans notre langue, une fois encore, aussi étrange que cela paraisse, nous n'avions pas de mots pour nous désigner en tant que peuple. C'est seulement lorsqu'on rencontre une espèce comme l'espèce humaine, fascinée jusqu'à l'obsession par les identités, qu'on se met à apercevoir, par un retour sur soi, l'unité de celle à laquelle on appartient.
Effectivement, je pense que c'est parti aussi pour moi, cette idée d'une forme d'agacement par rapport au mot d'extraterrestre, qui est connoté d'une façon, je trouve, assez kitsch, paraît une hypothèse très fantaisiste, très adolescente, etc. Et mon narrateur, Maloclès, est né sur Terre. Il n'a pas connu d'autres pays. Donc il ne se désigne pas comme extraterrestre, il n'y a pas de raison. Il ne connaît que cette Terre. Et par ailleurs, il sait que les autres planètes aussi, celles où ont vécu ses ascendants, sont aussi des Terres. Toutes les planètes sont des Terres, dit-il. Là, il y a un reflet, une transposition de ce que peuvent penser dans notre monde les migrants. On continue à appeler immigrés, même quand ils sont là depuis deux générations, selon exactement le même processus où on va créer une catégorie, en assurer l'homogénéité, repousser les nouveaux arrivants comme ne pouvant pas y entrer au détriment de ce qui se produit dans la réalité concrète, c'est-à-dire une circulation, un mélange, etc. Donc, d'une certaine manière, en refusant ce nom-là et en choisissant un qui désigne des formes mi-effrayante, mi-fascinante que peuvent être les démons, je voulais faire d'une pierre deux coups, montrer que si je me sers de certains codes de la science-fiction dans le livre, je n'entends pas non plus m'inscrire pleinement dans le genre ou en respecter tous les attendus, et d'autre part, faire le parallèle avec notre manie de catégoriser, sachant que dans notre monde, selon les catégories qu'on crée pour les gens, on ne leur réserve pas le même sort. On ne réserve pas le même sort à des étrangers qu'on appelle expatriés, des étrangers qu'on appelle migrants économiques et des étrangers qu'on appelle réfugiés. De la même manière, la nouvelle espèce arrivant sur Terre va aussi catégoriser les hommes et ne réservera pas le même sort aux humains d'élevage, de compagnie ou de travail.
Parce que ce que nous découvrons à travers le narrateur Maloclès, c'est qu'il y a trois catégories d'hommes. Il y a ceux qui travaillent pour l'espèce dominante. Il y a ceux qui leur tiennent compagnie, animaux de compagnie, et il y a ceux qu'ils mangent, humains d'élevage. J'ai dit animaux, c'était un non-sens. C'est des humains qui travaillent, des humains de compagnie et des humains d'élevage.
Oh, c'est pas forcément un non-sens, parce qu'au fond, l'homme devient un animal de compagnie. Ça m'a amusé de reprendre l'expression « femme de compagnie », par exemple, qui a une réalité historique. Et Iris est la femme de compagnie de Malo. Simplement, ça n'a plus le même sens. C'est pas une cour avec autour d'une figure centrale de reine ou de princesse, des gens qui gravitent. C'est quelqu'un qui l'héberge chez lui. Comme nous aurions tendance, dans notre civilisation, à adopter certains animaux. Alors, là, ce qui est frappant, et ce que je voulais tenter, c'est de faire subir des sorts différents à la même espèce. nous, ce n'est pas forcément quelque chose que nous faisons, en tout cas en France. On a tracé des lignes de partage assez fermes. On ne mange pas les animaux qui nous servent d'animaux domestiques, en règle générale. Même s'il y a des exceptions, on peut avoir des lapins animaux domestiques et manger du lapin, bon. Mais globalement, on ne mange pas des chiens ou des chats. Et à l'inverse, on ne va pas avoir pour animaux domestiques des cochons ou des bœufs ou des chèvres. C'est nettement plus rare. Ces lignes de partage sont très arbitraires et on s'étonne des autres cultures, des cultures où elles sont différentes, elles sont tracées différemment. Donc j'imagine ces hommes qui ne se rendaient pas compte de tout cet arbitraire et se traitaient réciproquement de mangeurs de grenouilles, de mangeurs de porcs, de mangeurs de chiens, de mangeurs de cheval, le tout avec une espèce d'horreur, comme si c'était inconcevable. Vérité d'un côté des Pyrénées, mensonge en deçà, pour paraphraser Pascal. Et on a vraiment ce rapport aux animaux. On trace vraiment des frontières très très arbitraires entre les animaux. Et imaginez une nouvelle espèce qui fait la même chose avec nous, qui va élever certains de telle sorte qu'ils ne sauront pas parler, ils auront du mal à se mouvoir parce qu'ils seront élevés pour être engraissés et abattus, alors que d'autres auront une vie quand même nettement plus confortable, intellectuellement stimulante, à travailler, y compris à travailler sur des tâches qui demandent pas mal d'intelligence, de réflexion, d'organisation, ou à passer du bon temps parce qu'on a décidé qu'on avait envie qu'ils soient nos humains de compagnie. Imaginez cette répartition, rebat les cartes et j'espère ferait un peu prendre conscience de la bizarrerie de nos usages concrets, réels.
Parce que cette question de l'élevage des hommes, de la même manière que nous avons des élevages d'animaux actuellement sur notre planète, et un élevage intensif, si ce n'est abusif, ça va être le cœur de toute la deuxième partie du livre, puisque Maloclès, avant d'être rapporteur d'une loi, dont on parlera tout à l'heure, était contrôleur pour leur gouvernement, pour l'État, contrôleur des élevages humains. Et on va avoir droit à une visite. Voilà. Il va se souvenir, il va se remémorer d'une visite, parce que c'est au cours de cette visite qu'il va rencontrer Iris, qu'il va du coup capter pour la transformer en femme de compagnie alors qu'elle était humaine d'élevage. Et pendant un certain nombre de pages, nous assistons à cette visite. Au début, ça va encore, mais on va de plus en plus vers le glauque. Et le lecteur passe de cap en cap sur les techniques d'élevage. Et on se rend bien compte en le lisant qu'il s'agit aussi, et qu'il s'agit peut-être même surtout, de nos propres techniques d'élevage actuelles sur notre planète, faites par nous, les hommes. À cette différence près qu'au lieu que ce soit des cochons ou des poulets que nous voyons, ce sont des hommes.
J'inverse effectivement les rôles, c'est l'idée de début, hein, c'est l'idée sur laquelle le livre est fondé. Pour parler du sort des animaux, est-ce qu'une... mon intuition était peut-être, voyant ce que ça donnerait si nous subissions la même chose. C'est un principe absolument banal de l'éthique. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que soit fait à nous-mêmes, ou bien essayer de se mettre à la place des autres par un effort d'imagination morale. Moi, j'aime beaucoup en littérature cette capacité, l'imagination morale, se glisser dans la peau de gens qui ont une vision du monde très différente de la nôtre, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même parcours biographique, et pourtant réussir à comprendre et donc réenvisager la réalité qu'on connaît avec quelque chose d'un peu dépoussiéré ou un œil différent. Et il n'y a pas de raison, au fond, que cet effort d'empathie s'arrête sur la barrière interespèce. Hein. On peut très bien imaginer, et ça a été souvent fait dans des livres où il y a des métamorphoses, par exemple, qu'on la dépasse et qu'on se glisse dans la peau de quelqu'un qui n'est pas un homme. Donc là, le mouvement est double. Nous glissons dans la peau de Maloclès, qui n'est pas un homme, et pourtant nous ressentons de l'empathie, de la sympathie pour ses visées, la cause qu'il défend, etc. Et de l'autre côté, lui ressent de l'empathie, et de plus en plus d'empathie à mesure que le livre avance, pour les humains d'élevage, qui ont pris la place des animaux parce que c'est une viande qui dans ce monde est particulièrement prisée, qui est beaucoup plus noble, pas forcément parce qu'elle est plus parce qu'elle est meilleure au goût ou parce qu'elle est plus économique, mais tout simplement parce que symboliquement c'est une manière qu'a cette nouvelle espèce d'asseoir sa domination sur ceux qui étaient précédemment en haut de la chaîne alimentaire. Donc on revient sur ces années, il explique d'abord le système général de l'élevage, et puis à un moment donné, il raconte une journée plus précise, un élevage dans un paysage de brume et de boue, une fin d'automne, qui est le jour où il a rencontré Iris et où il a pu la sauver d'un élevage où elle et ses compagnons étaient particulièrement maltraités.
Oui, c'est-à-dire qu'on passe de cap en cap. C'est-à-dire qu'on a d'abord les élevages principaux et puis on s'aperçoit que certains ont été malades, qu'ils manquent dans les cages. Et puis Maloclès, étant consciencieux dans son travail, va vraiment essayer de coincer ce fermier qui a tous les traits de celui qui élude en tout cas les règlements et qui les enfreint ouvertement. Et il trouve un entrepôt un peu plus loin, enfin une grange, et là où il découvre l'horreur principale. Des humains morts, des humains encore à moitié vivants, malades, vomissants. Ça nous donne une image, enfin, en tant que lecteur, on a tout de suite à l'idée les camps de concentration nazis. C'est pas le sujet principal de ce moment-là dans la fiction. Néanmoins, on y pense. Toi, écrivant ces scènes-là, non pas avec des animaux, mais avec des hommes, qu'est-ce que ça produisait en toi, en tant qu'écrivain? Je parle avec émotion parce que ces pages-là sont réellement insoutenables. Et j'imagine que pour les écrire, pour qu'elles fassent image aussi dans la tête du lecteur, et c'est le rôle des fictions de faire image dans la tête du lecteur, et c'est des images dures, difficiles, âpres, j'imagine que pour toi, de les écrire, ont été aussi assez terribles.
Oui, c'était le cœur noir du livre, c'était pas commode de s'y lancer. Ça me paraissait néanmoins nécessaire de le faire sans complaisance dans la dureté, la noirceur ou la violence, donc de pas en abuser non plus, de pas en faire plus que nécessaire. J'ai pas envie que le lecteur s'arrête sur ces pages et renonce à aller plus loin, j'ai envie qu'il dépasse la vision de cette violence et qu'il poursuive. Le parallèle concentrationnaire, il n'était pas forcément conscient dans ma tête à chaque instant, mais il est évident aussi parce que historiquement, ça s'est déroulé comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élevages intensifs mettent les animaux dans des conditions concentrationnaires, mais les nazis ou les autres acteurs du totalitarisme au XXe siècle, c'était eux inspirés de ce qu'était l'élevage industriel, tel qu'il a pu être mis en place dans les abattoirs de Chicago, puis dans les abattoirs européens au début du XXe. La chaîne industrielle telle qu'on la connaît, Taylor en a l'idée aussi en visitant les abattoirs de Chicago. Donc, c'est en voyant la logistique, le transport et l'abattage systématique des bœufs que sont inventés des processus industriels qui vont être ensuite récupérés par les dictatures, récupérés par les totalitarismes. Et évidemment, c'est comble de l'horreur quand on dit... ils étaient traités comme des bêtes, ils voyageaient dans des wagons à bestiaux, on les a abattus comme des bêtes. Et c'est central, cette indignation, ce scandale, cette horreur, c'est central dans notre imaginaire politique après 1945 en Europe. Ce qui me paraît particulièrement troublant, c'est qu'en fait on continue de faire la même chose. Simplement, on ne le fait plus avec des hommes, on le fait avec des animaux. Mais qu'on puisse le faire avec beaucoup de sérénité, et tout en gardant une image très douce, très bénévolente, très hédoniste de nous-mêmes avec des animaux, alors que quand ça a été fait avec des hommes, on a atteint pour nous une sorte de comble de l'horreur historique, ça me paraît très étrange. D'autant que ce n'est pas dans des petites proportions, puisque on abat au monde à peu près 65 milliards d'animaux terrestres par an. Donc c'est absolument considérable. C'est plus d'hommes qu'il n'en est mort au cours de toutes les guerres connues, de toute l'histoire de l'humanité. Plus d'hommes qu'il n'en a jamais vécu sur Terre depuis les débuts de l'humanité. Et c'est quand même quelque chose de largement caché. Ce qu'on garde, nous, en tête, c'est plutôt une image d'Épinal de la ferme, où les animaux sont en liberté, et où un jour, effectivement, ils meurent en se disant « mais tout le monde doit mourir ». Donc, mourir après avoir une vie de loisirs et de pâturage, pourquoi pas? Après tout, nous aussi on meurt, et nous aussi on meurt dans la douleur. C'est vrai, cette chose-là est vraie. Mais les conditions de l'élevage intensif aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ça. Donc il y avait cette violence. En même temps, je pense que j'aurais pas pu écrire ces pages s'il n'y avait pas eu aussi pour moi quelque chose de ludique là-dedans. C'est-à-dire, pas quelque chose de ludique au sens où ça aurait diminué la violence, mais une forme d'ironie ou d'humour noir, quelque chose de grinçant. Je pense que j'ai voulu y mettre des pointes qui peuvent faire rire, comme certaines pages de Kafka peuvent être à la fois très noires et très drôles. Et donc ça, c'est ressenti, si j'en crois les premiers échos que j'ai, de manière très différente selon les lecteurs. Mais à mon sens, il y a aussi de l'ironie et de l'humour noir, parce que Maloclès décrit tout ça comme si c'était parfaitement naturel, alors que lui-même a pris conscience, en étant inspecteur des élevages pendant des années, que c'était absolument scandaleux, anormal, et il a voulu quitter ce métier, parce qu'il ressentait cette horreur qui, petit à petit, l'imprégnait de plus en plus.
Et tu lui fais dire cette phrase, « De ce point de vue, en renversant la donne, en les réintégrant de force dans ce règne animal dont ils voulaient à tout prix s'excepter, nous faisons justice au non-humain. Nous faisons justice au non-humain. »
Oui. Alors l'exception d'abord, elle est construite par notre pensée depuis des siècles. On sait qu'on est des animaux, et puis on a mis en place des dispositifs très mentaux, très forts, très puissants, pour le refouler, jusqu'à faire de nous une espèce exceptionnelle et de ne plus considérer les animaux que parce qu'il leur manque. Il leur manquerait, dit-on, la raison, il leur manquerait le langage, etc. Parfois c'est faux, parfois ça tient à notre méconnaissance du monde animal. Ils ont des formes de communication dont on ne sait encore pas grand-chose, ils ont des formes d'intelligence qu'on connaît mal, parce qu'on est généralement, quand on est là pour les observer, eux n'ont pas un comportement normal, parce qu'ils sont effrayés, ils savent qu'ils deviennent des proies. Donc l'éthologie a fait énormément de progrès là-dessus et rend plus poreuse cette frontière. Évidemment qu'à certains égards, l'espèce humaine est une espèce qui a des capacités très supérieures dans beaucoup de domaines, mais de là à en faire une espèce d'exception et à l'inverse à homogénéiser le règne animal, comme s'il y avait moins de différence entre une huître et un ours qu'entre un cochon et nous, il y a quelque chose de très bizarre en fait. Ce qui est une construction multiséculaire dans beaucoup de cultures, mais pas dans toutes. Et dans l'expression d'un humain, on retrouve un écho d'un mouvement qui est assez puissant maintenant dans l'anthropologie, par exemple, mondialement, mais cette anthropologie en France, représentée par Philippe Descola, et puis quand elle est liée à des enjeux plus d'histoire des sciences par Bruno Latour, où Descola, c'est à partir de l'étude de sociétés où nature et culture s'imbriquent différemment, ne font pas l'objet de la séparation très stricte qu'on a voulu leur imposer dans le monde occidental, de sociétés où les vivants sont un continuum et où il y a une sorte de familiarité avec des vivants non humains, c'est à partir de ça qu'il essaye de repenser ce que sont nos sociétés dans les grandes séparations métaphysiques qu'on a pu opérer. Et Bruno Latour, lui, défend cette idée d'une représentation des non-humains, représenter les intérêts des non-humains. Je pense que c'est une idée qu'il faut prendre en compte avec la crise écologique qu'on traverse, le nouveau régime écologique qui s'est mis en place avec le réchauffement climatique. Et c'est à la fois passionnant et très difficile et très urgent parce que le livre évoque surtout le sort des animaux d'élevage, mais on parlait tout à l'heure des oiseaux. Il y a aussi une érosion terrible de la biodiversité et d'un certain nombre d'écosystèmes qui font que il faut que les hommes arrivent à se considérer plus proche des non-humains que nous n'avons eu tendance à le faire traditionnellement. Et il faut qu'on arrive à prendre en compte leurs intérêts. Sinon, c'est nous-mêmes qui allons à la catastrophe.
Est-ce que tu as eu la tentation, à un moment donné dans ta fiction, là où tu en étais, d'écrire un réquisitoire contre la viande animale ? Parce que, on va voir pour la suite du livre où on est pris dans une instance gouvernementale pour une nouvelle loi sur des nouveaux droits humains. Nous allons en parler dans quelques instants, où il ne sera plus question de viande animale. Mais quand on lit toutes ces pages-là sur l'élevage, on peut avoir cette impression que c'est peut-être le plus puissant réquisitoire qu'on peut lire par l'usage de la fiction contre notre production de viande animale. Tu as dit le chiffre tout à l'heure, c'est 65 milliards à peu près d'animaux d'élevage mangés par an, donc tués.
C'est absolument gigantesque et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en rende compte, même si ce thème fait l'objet maintenant quand même du débat public relativement régulièrement. C'est une conscience tout juste émergente, et elle l'était aussi pour moi. Hein. Donc le livre, de ce point de vue, c'est l'histoire d'une prise de conscience, celle du héros, Maloclès, qui se rend compte que les siens font fausse route, et cette prise de conscience suit et est parallèle à celle que j'ai pu connaître moi au fil d'un certain nombre d'années. Manger de la viande et, du poisson nous paraît tout à fait normal, fait même partie d'un art de vivre dont on est très fier, en particulier en France, avec tout un patrimoine culinaire, etc. Et au fond, oui, ça a été normal pendant des siècles, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ça a complètement changé d'échelle, et donc la vie des animaux que nous tuons a complètement changé de forme. Avant, ils avaient une vie sans doute relativement bonne, en tout cas décente, et ensuite ils étaient tués dans la douleur. Aujourd'hui, beaucoup ont une vie horrible, une vie de torture, une vie d'incarcération perpétuelle. Ça vaut y compris pour les poissons d'élevage, hein, qui vivent dans leur déjection, dans des espaces beaucoup trop restreints, qui n'ont pas de liberté de mouvement, etc. Et puis ensuite sont tués. Par ailleurs, et pour moi, c'est les considérations éthiques rejoignant brusquement la préoccupation écologique, c'est ça, c'est la conjonction des deux qui fait que ça m'a convaincu. C'est un problème pour le réchauffement climatique aussi. C'est 14% l'élevage des émissions de gaz à effet de serre. Or, quand on prend vraiment au sérieux la crise climatique, on ne peut pas se permettre de ne pas agir sur un levier aussi puissant. On sait qu'il faut agir sur le transport, on sait qu'il faut agir sur l'éco-efficacité de nos modes de production, on sait qu'il faut probablement, de manière générale, réduire notre consommation ou nos déplacements. Mais parmi les choses qu'il faut à tout prix réduire, il y a notre consommation de protéines animales, de viande et de poisson. C'est tellement net que les sociétés dont la démographie est tendue ne peuvent pas se permettre ce genre de consommation. On sait bien que les Indiens et les Chinois n'ont jamais pu se permettre ce genre de consommation de produits carnés, et que c'est seulement parce que l'Europe et l'Amérique du Nord sont relativement peu denses, relativement peu peuplées, que l'individu occidental a pu devenir un tel consommateur. Des voyages ou des lectures sur ce que c'est que ces civilisations asiatiques aussi ont contribué à cette prise de conscience. Ce serait une catastrophe absolue si les Chinois et les Indiens, devenant classe moyenne ou classe supérieure, décidaient d'adopter le mode de vie occidental, notamment du point de vue de la consommation carnée. Parce que l'élevage, c'est aussi une des causes principales de déforestation dans le monde. Donc tout ça fait système. Et ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai fait une fiction globale, hein, qui relie différentes formes de violence qu'on inflige aux écosystèmes ou aux vivants, c'était de montrer les articulations de ce système. Et pourquoi, quand on repense une chose, le réchauffement climatique, il faut aussi repenser d'autres choses, notre mode de vie, et notre rapport aux vivants, et notre rapport aux animaux, et notre consommation d'animaux.
C'est là où on s'aperçoit que ta fiction, défaite des maîtres et possesseurs, Vincent Lesage, elle englobe nos problématiques les plus urgentes qui se posent actuellement à nous comme espèce qui sommes maîtres et possesseurs de cette planète. Toute la fin du livre, Maloclès est rapporteur d'une loi à son assemblée de son espèce, qui la représente en tout cas, une loi sur la durée de vie des humains. Tout humain, dans ce monde-là que tu imagines, est euthanasié à l'âge de 60 ans. Maloclès milite pour, en tout cas dépose une loi pour que ça soit augmenté de 10 ans, pour qu'elle passe à l'âge de 70 ans, prolonger donc de 10 ans la vie des humains. Et là, nous assistons à des débats, comme on pourrait avoir des débats à nos propres assemblées nationales en France sur une loi à peu près de cette même envergure. On a donc les défenseurs de cette loi, donc Maloclès plus un ami à lui. Et puis il y a en face Martha Vaquet qui à qui tu donnes vraiment la parole pendant 5-6 pages. Elle fait son discours, qui est bien entendu tout à l'inverse. Cette place des discours, c'est toute la fin du livre. Enfin, pas toute la fin du livre, parce qu'après, on retombe sur Maloclès, qui va chercher à trouver une solution pour Iris, pour sa femme de compagnie. Toutes ces pages sont marquantes également. C'est une utilisation dans la fiction de discours, et ce sont des vrais discours politiques sur des enjeux qui nous concernent, nous, en tant qu'actuellement, en tant qu'espèce dominante.
Oui, alors Malo, après avoir été inspecteur des élevages, il entre au comité d'éthique d'un ministère, donc qui n'est pas nommé, mais dont on suppose que c'est un ministère qui s'occupe de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et cette loi à deux volets, celui que tu as mentionné, augmenter de 10 ans la vie des humains qui sont des humains travailleurs ou des humains de compagnie, et puis mieux réglementer les conditions d'abattage de l'autre côté pour rendre l'abattage moins douloureux, mieux contrôlé, ce qui suppose de réduire un peu la cadence des chaînes, ce qui suppose d'augmenter un peu les contrôles et d'augmenter aussi le salaire des gens qui font ça parce qu'ils font partie des prolétaires dans cette espèce. J'aime bien cette idée d'une arène des débats, et ça pose aussi la question du réformisme, c'est-à-dire que ça va être difficile de faire passer cette loi. Malo sent que le rapport de force en vigueur à l'Assemblée nationale, les intérêts industriels qu'il y a derrière, la circulation d'argent, l'indifférence au sort d'une espèce qui ne peut pas prendre la parole beaucoup elle-même au sein de cette Assemblée pour se défendre puisqu'elle n'y est pas représentée, tout ça fait que ça va être difficile. Et en même temps, quand il parle à des hommes, on lui dit c'est une mesurette, qu'est-ce que ça va changer, 10 ans de plus, c'est ridicule, c'est pas du tout ça qu'il faudrait faire, etc. Là aussi, je voulais donner une image de ce qu'est la condition animale, parce qu'on se pose pas trop la question, mais autant nos animaux de compagnie vivent jusqu'à l'épuisement, généralement, autant les animaux d'élevage, en fait, on les laisse vivre un tiers, un cinquième, un sixième de ce qu'ils pourraient vivre s'ils vivaient dans des conditions normales. Cette question de la fin de vie, elle est présente à d'autres égards aussi dans nos sociétés. C'est comment est-ce qu'on régule la mort? Comment est-ce qu'on peut légiférer sur la mort? Alors, je ne m'inspire pas des débats réels sur la fin de vie qu'il y a pu y avoir cette année, y compris au Parlement en France. Mais ça m'intéressait de voir quelles lignes politiques, quels clivages peuvent se dessiner sur une question aussi grave, aussi douloureuse personnellement. Et elle l'est pour Malo, puisque c'est une autre des règles, c'est que les humains mutilés, les humains blessés, eux aussi vont être piqués, vont être euthanasiés. Il n'y a pas de raison de les garder. S'ils ne sont plus en bonne santé, il n'y a plus de raison de les garder vivants. Donc ça menace directement Iris. Il se retrouve à traiter professionnellement d'un problème qui est aussi devenu un problème personnel. Je laisse les discours se déployer parce que j'aime bien voir ce que c'est que la rhétorique politique, en essayant de montrer la légitimité des arguments, y compris utilisés par les opposants, ne pas les caricaturer. Martha Vaquet dit par exemple, si on les laisse vivre plus vieux, ils souffriront plus, parce que c'est à partir de 60 ans que les maladies arrivent. Ils retrouveront les cancers, ils retrouveront les problèmes cardiaques qu'ils avaient avant que nous n'arrivions. Et l'argument est tout à fait juste. Et en même temps, il y a une cruauté malgré tout de cette position, d'arrêter la vie alors qu'elle est encore profitable, alors que pour certains, pour ceux qui ont les meilleures conditions de vie sur cette terre-là, elle est encore quelque chose dont ils peuvent jouir et bénéficier. Voilà, donc c'est un moment de discours qui s'affronte et où il n'y a pas forcément tout de suite d'arbitrage ou de dernier mot. J'espère que le lecteur peut être convaincu par des arguments de part et d'autre et ensuite se faire sa propre opinion.
Oui, c'est-à-dire que c'est très très ouvert. Enfin, il y a un discours pour la loi et un discours contre la loi. Et c'est équilibré, c'est-à-dire qu'on entend d'abord la voix du défenseur de la loi et on peut être que d'accord avec ses arguments. Et ensuite arrive le discours magistral de Martha Vaquet. Et en tant qu'écrivain, tu lui donnes une place égale. Tu lui donnes des arguments qui ne sont absolument pas grossiers et qui sont presque incontestables également. C'est-à-dire que là, on a affaire à des arguments de poids équivalent et le lecteur se trouve bien embarrassé pour choisir. Il est convaincu par le premier discours, arrive le deuxième discours et moi, j'étais autant convaincu par le deuxième discours qui était contre. C'est-à-dire que tu fais vraiment un travail de thèse-antithèse en leur donnant des arguments qui faisaient sens. Toi, comment tu... Pour qui tu es... pour quel... Tu balances pour quel discours? Parce que ton discours contre ce type de loi était très 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 convaincant. C'est-à-dire qu'en le lisant, je me suis dit, mais bon, très bien. Et donc, quel est l'argument final?
Moi, je n'ai pas forcément à prendre position. Le travail de romancier, c'est précisément de mettre en place cet équilibre dont tu parles. J'y suis d'autant plus attaché que... En tant qu'essayiste, j'ai pu travailler sur le pluralisme en littérature, et le pluralisme, ça consiste bien chez Dostoïevski, chez Musil, chez d'autres auteurs que j'ai étudiés, à montrer comment plusieurs positions, pourtant inconciliables, peuvent, dans un débat public, s'affronter, avoir chacune leur légitimité, ou plusieurs modes de vie peuvent être également enviables, ou, etc. Plusieurs valeurs également défendables. Et... ce qui est très important quand on parle de politique en littérature, c'est, je crois, de montrer la complexité des problèmes. Les hommes politiques n'ont pas le choix. Ils sont dans un univers tellement adversatif qu'ils ont tendance à caricaturer ce que dit l'adversaire, à réduire les arguments de l'adversaire à des choses honteuses, etc. Dans la plupart des cas. Je crois que quand on est du côté du monde de l'art ou du monde intellectuel, on a intérêt à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à montrer jusqu'où les positions sont légitimes et puis à partir de quel moment on estime que malgré tout on ne peut pas les suivre. Donner raison à l'autre aussi loin qu'il est possible, parce qu'ensuite, si on a des arguments à faire porter soi-même, on a aussi plus de chances d'emporter son adhésion, hein, à partir du moment où on a montré qu'on l'a écouté, qu'on l'a compris, qu'on voit en quoi ce qu'il dit est défendable, et que malgré tout, on garde une position différente. Bon, ces choses-là, ces jeux d'équilibre subtils m'intéressent beaucoup plus que le simple fait de trancher tout de suite sur qui a raison et de faire dérouler une sorte de rouleau compresseur.
Quelle est la référence de ce titre? Il faut qu'on y vienne. « Défaite des maîtres et possesseurs ». Très beau titre. On peut imaginer que ça nous vient d'un philosophe, de Descartes peut-être.
Ça vient effectivement d'une expression de Descartes. Dans le discours de la méthode, il dit que si on abandonne la philosophie assez spéculative qui est celle du Moyen-Âge et qu'on essaye de repartir à zéro, de faire table rase, hein, c'est cette fameuse expression, faire table rase, pour construire une philosophie pratique, plus articulée à la connaissance scientifique, nous pourrons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et il en voit d'abord les avantages, amélioration du confort de la vie humaine, grâce à des meilleures connaissances techniques et médicales, etc. On est héritier de ce mouvement, et en même temps, nous n'avons pas été jusqu'à présent de bons maîtres et possesseurs, parce que nous nous sommes fait une vision très partielle, très biaisée de ce que c'est que le fonctionnement de la Terre ou des écosystèmes. Et certes, nous avons réussi à construire des villes, des réseaux de communication gigantesques et très efficaces, mais cela d'une manière qui est absolument insoutenable. Donc, si Descartes inaugure ce qui va devenir les Lumières, on a besoin de nouvelles Lumières aujourd'hui, qui sont des Lumières écologiques et qui revisitent l'ensemble de nos modes de vie, à partir d'une critique de cette maîtrise, de cette possession de la planète que nous avons. Et ça suppose probablement de lutter plus généralement contre un certain appétit de pouvoir, un certain appétit d'aller toujours vers plus de croissance dans le pouvoir, une certaine volonté de posséder, qui sont des choses aussi dans l'air du temps. Je veux dire, on passe d'une économie de la possession à une économie de l'usage, par exemple, en ce moment, sur beaucoup de services, de la voiture à les films, la télévision, etc. Donc, voilà, moi, ça m'intéresse de voir quel tournant anthropologique on doit prendre désormais. Et je crois que cette expression de Descartes a été tellement une clé de la modernité que la retourner, imaginer la défaite des maîtres et possesseurs, ça permet de marquer un peu la nouvelle ère que notre génération doit ouvrir. Et si elle ne l'ouvre pas, une fois de plus, malheureusement, la Terre sera très très difficile à vivre pour les générations qui nous suivront.
J'aimerais qu'on termine l'entretien sur les enjeux de la fiction. Dans la dédicace que tu m'as adressée, il y a cette belle expression qui m'a fait réfléchir. Elle me fait réfléchir encore, et j'aimerais en savoir un petit peu plus. J'aimerais connaître ta définition ou ton usage. Tu parles d'une fiction globale de notre présent. Tu qualifies même « Défaite des maîtres et possesseurs » fiction globale de notre présent. Tu l'as écrit pour moi, mais ça aurait presque pu être le sous-titre, la manière dont tu qualifies ta fiction.
Oui, alors fiction, c'est assez évident, hein, on n'est pas dans notre monde, on est dans un monde imaginaire, et c'est pas juste un roman, c'est un roman qui affirme cette dimension fictionnelle, qui fait volontairement un pas de côté ou un détour par rapport à notre monde. Fiction globale parce que ce qui m'a excité, ce qui m'a tenté, c'est pas juste raconter une histoire singulière, mais de mêler une histoire singulière, celle de ce couple, Malo et Iris, à une histoire qui montre la manière dont des sociétés ont évolué. Et ça me paraissait important parce que notre système connaît une crise globale et qu'elle est difficile à saisir si on se contente d'une vision locale des problèmes. On a besoin de la vision globale aujourd'hui, et elle nous est apportée par des essais, etc., ou par un discours savant, ou par un discours journalistique, mais on a besoin aussi de quelque chose de plus sensible, de quelque chose où cette imagination morale, cette empathie dont je parlais tout à l'heure, fonctionne à plein, et ça, la littérature fait partie des domaines qui peuvent y contribuer. Et puis, je dis fiction globale de notre présent, parce que de manière un peu rapide, on pourrait se dire c'est un récit d'anticipation, puisqu'il y a une nouvelle espèce qui est sur Terre, etc. Ou c'est une utopie noire, parfois on dit une dystopie, hein, c'est-à-dire notre avenir repeint en coulée noire, en coulée sombre. C'est vrai, mais il faut bien se rendre compte que dans ces deux genres, avec lesquels le roman joue un peu, en réalité il y a toujours une préoccupation pour le présent. Ce que j'imagine, c'est notre monde, avec simplement une inversion des rôles, nous n'y sommes plus les maîtres, nous y sommes les dominés, et donc nous subissons toute la violence que subissent dans notre monde les dominés que sont les animaux, mais aussi les dominés que sont les petites mains du capitalisme, tout en bas de l'échelle, qui vivent dans des conditions qui sont celles quasiment de l'esclavage pour produire les biens de consommation. Donc le regard change, le point de vue change, je passe par un détour, mais c'est bien du présent que je parle.
Un détour par la science-fiction. C'est à nouveau un usage de la science-fiction. Dans L'Éveilleur, ta première grande fiction, il y avait aussi un usage de la science-fiction en filigrane. C'est une science-fiction douce. Alors, on a toujours l'impression que c'est de notre monde dont tu nous parles. Néanmoins, là, tu fais venir une espèce extraterrestre.
Oui, moi, c'est pas tellement science-fiction que je dirais, même si je suis bien conscient que cette prémisse des extraterrestres arrive est très science-fictionnelle. Mais je dirais pas science-fiction, parce que dans la science-fiction, il y a l'idée qu'on explique beaucoup de choses quand même sur quelles évolutions techniques, quelles évolutions scientifiques ont permis qu'émerge l'état présent de ce dont on parle. En tout cas, il y a un courant de la science-fiction qui fonctionne de cette manière. Dans le roman, je fonctionne aussi comme des récits qui datent d'avant la séparation des genres. Les récits de l'époque baroque ou de l'époque des Lumières, ces contes philosophiques où on voit des gens aller explorer d'autres planètes ou d'autres mondes, hein, chez Cyrano de Bergerac dans Les Étés de la Lune, Gulliver dans des îles de l'Atlantique ou du Pacifique, où il rencontre des espèces très loin de l'espèce humaine, Voltaire dans Micromégas. Donc c'est une vieille histoire, cette chose-là. Elle existait avant que la science-fiction n'existe. Et je crois que la science-fiction l'a développée, et l'a développée souvent dans une préoccupation sur notre présent politique ou notre présent écologique. Et c'est un mérite qu'on peut reconnaître au genre, et c'est en ça que j'avais envie de m'en saisir à mon tour et d'en faire quelque chose de peut-être de plus littéraire que pas mal de productions de science-fiction, mais qui en même temps ait cette énergie et, j'espère, cette acuité critique.
Parce que, lisant ton livre, j'ai eu l'impression que c'était un livre utile, c'est-à-dire que c'était une fiction utile, une fiction qui nous renvoie un miroir sur nos propres usages actuellement, usages sur notre planète, usage sur le monde animal, usage puisque nous sommes les seuls maîtres et possesseurs de cette planète. Et puis il y avait une utilité forte de ta fiction comme outil pour nous faire réfléchir, mais puisque ce n'est pas un essai, que c'est une fiction, outil pour nous faire ressentir.
J'ai vraiment, effectivement, cherché à produire ces effets-là. Après, c'est vraiment à chaque lecteur de dire si j'y parviens, mais même si c'est pas très à la mode en ce moment, ou pas tant que ça, j'assume l'idée d'avoir écrit un livre assez engagé, au sens où il incite à des formes d'action et des formes de prise de conscience. D'abord la prise de conscience, et ensuite une prise de conscience qui peut déboucher sur des actions que chacun inventera, que chacun façonnera à sa manière. L'engagement, ça n'a pas forcément très bonne presse en littérature, parce qu'on a l'impression que ça a perdu la littérature pendant des décennies, c'est-à-dire que ça l'a asservi à des causes politiques, partisanes bien précises, au détriment de la forme. Et en fait, moi je crois que il faut revenir là-dessus, ce n'est pas forcément incompatible. On peut écrire une fiction qui développe un propos politique à la fois complexe, qui marque les ambivalences, mais qui est quand même clair. C'est-à-dire, il est clair que le livre appelle à changer notre comportement par rapport aux animaux et par rapport aux écosystèmes dans lesquels ils habitent, pour les animaux sauvages. Et en même temps, ne pas nier les nécessités de la forme. Et on a, en tant que romancier, une responsabilité de créer des formes originales, des formes plaisantes, des formes qui permettent d'apporter du nouveau et de faire ressentir, effectivement, de placer le lecteur, de proposer au lecteur une expérience sensible dont il n'a pas l'habitude. Donc là, l'expérience sensible, c'est celle-ci, c'est « et si nous étions à la place des animaux ?» Et si nous n'étions plus ceux qui décident, ceux qui contrôlent ? C'est pas tellement différent de notre monde, puisque dans notre monde, la plupart des gens sont pas dans le contrôle et sont pas ceux qui décident. Mais simplement, je généralise la proposition. Brusquement, nous sommes tous des gens qui n'ont pas la maîtrise de leur destin. Et on voit ce que ça donne.
À la différence de ces usages, on va dire fantastiques, dont tu parlais au XVIIIe siècle, Cyrano de Bergerac en étant un des grands cas, c'était un usage des fantastiques qui était ascientifique, c'était fantasmagorique, c'était une belle place à l'imaginaire. Or, ce dont tu parles dans ta fiction, c'est quelque chose de très crédible. C'est-à-dire, il est impossible, par la raison, par la pensée, de dire que ça ne peut pas arriver, que des extraterrestres viennent nous rencontrer et viennent nous asservir. Il est impossible de contrer cet argument. Voilà. C'est impossible de dire non, ça n'existera jamais, non, ce n'est pas possible. Parce que oui, c'est envisageable, nous avons suffisamment de connaissances, nous avons un tel usage de notre pensée que nous savons qu'il est possible qu'une espèce extraterrestre supérieure à nous vienne nous rencontrer et finalement nous asservisse. C'est-à-dire de la même manière que lorsque les Européens ont rencontré d'autres populations, notamment en Amérique, les ont asservis, leur ont apporté des virus et ont cassé leur société.
Oui, pour moi, il y a vraiment ce parallèle que tu soulignes entre la colonisation du Nouveau Monde ou de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie et une invasion d'une espèce venue d'ailleurs. À l'heure actuelle, une hypothèse qui me paraît intéressante dans ce champ, c'est l'idée que ce qui rend difficile à des existences extraterrestres de se manifester, c'est que pour voyager hors de l'écosystème dans lequel on est né, il faut avoir vraiment une capacité de production très forte, et que généralement, cette capacité de production excède ce que peut supporter l'écosystème en question, et que donc, les cultures qui avancent vers ce niveau technologique-là se rayent de la carte avant d'avoir réellement pu s'éloigner de leur milieu d'origine. À mon sens, c'est ce qui risque de nous attendre, c'est-à-dire que on envoie des sondes dans l'espace, on utilise des GPS qui sont liés à des satellites tous les jours. On fait ça en se disant que ça nous permettra peut-être de sortir de la planète. Mais les capacités technologiques, l'utilisation des ressources fossiles qu'on déploie pour le faire, à l'inverse, restreint énormément les chances qu'un jour on puisse en coloniser d'autres. Et moi, cette idée d'une planète B me paraît d'autant plus néfaste à notre présent que Quand bien même migration il y aurait, on sait bien que ça ne concernera pas des centaines de millions de personnes, ça concernera des dizaines, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'individus, et les autres seront laissés pour compte. Et on a l'habitude des systèmes économiques où la grande majorité est laissée pour compte. Donc c'est pas comme si c'était une sorte de cauchemar. Non, c'est juste la réalité. La plupart des gens occupent le bas de l'échelle et sont laissés pour compte. Donc la raison voudrait plutôt qu'on considère qu'il n'y a pas de planète B et qu'on se préoccupe de l'état de celle sur laquelle on vit. Malo, le narrateur du roman, souligne à plusieurs reprises qu'elle est très habitable. Elle n'est pas toute douce. Il y a des climats assez violents, il y a des catastrophes naturelles, etc. Mais dans un univers globalement hostile, on sait qu'il est peu favorable à la vie, qu'il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes et d'atmosphères dans lesquelles la vie peut prospérer. Elle y prospère remarquablement bien. Et c'est d'autant plus criminel d'être en train petit à petit de détruire la biodiversité, de détruire les espèces et de détruire la variété des écosystèmes.
Merci Vincent Message.
Merci à vous.